Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors que le pape François a publié récemment une exhortation apostolique sur la sainteté, troisième du genre depuis son élection, l'Église n'a pas fini de digérer la première Evangelii Gaudium, publiée au lendemain ou presque de son élection. Un appel fort à la transformation missionnaire de l'Église dans lequel le pape redit l'urgence de cet élan, nous parle des moyens à mettre en œuvre pour la déployer et l'esprit dans lequel tout cela doit se vivre. Coup de zoom aujourd'hui sur le chapitre 4, la dimension sociale de l'évangélisation et le bien commun et la paix sociale. Une émission Vivante Église ce matin, lecture d'Evangelii Gaudium avec Jean-Louis Breteau, diacre pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des trois intervenants de cette émission. Je le rappelle, émission donc un petit peu plus de formation, lecture suivie et continue d'Evangelii Gaudium, ce texte du pape François, avec un frère dominicain, Gilles Denroc, avec vous qui êtes diacre et avec un jeune prêtre du diocèse de Toulouse également, Damien Verlet. On a choisi des gens du diocèse de Toulouse, par commodité évidemment, mais cela n'exclut personne. Ce chapitre 4, donc, que nous avons commencé lors de la précédente émission, nous allons aborder maintenant les trois sous-chapitres, le 3 et le 4, le bien commun et la paix sociale, et le dialogue social comme contribution à la paix. Peut-être peut-on rappeler quel est l'objet de ce grand quatrième chapitre, la dimension sociale de l'évangélisation, pour situer un petit peu le propos pour ceux qui ne seraient pas totalement assidus à cette émission, Jean-Louis Breteau.
Il s'agit essentiellement de montrer comment l'évangélisation ne concerne pas seulement une sorte de message soit personnel, soit des petits groupes de messages du Christ, mais que ce message du Christ doit être communiqué de la manière qui convient dans les sociétés, dans le monde, vers les États qui sont impliqués dans l'articulation de la paix mondiale, et Dieu sait si en ces temps cette articulation est particulièrement importante. Et de façon globale, il s'agit, et c'est l'un des principes qui apparaît notamment dans ce sous-chapitre-là, il s'agit de préserver, comme le dit le pape, le bien commun. Le bien commun, c'est une notion qui est, pourrait dire, de type philosophique. On peut, d'ailleurs récemment, je crois qu'il y a eu une revue de théologie de l'Institut catholique qui avait comme titre « Le bien commun ». C'est une notion qui est à la fois philosophique, donc pas nécessairement chrétienne au départ, mais que le pape souhaite imprégner, dans la mesure du possible, de toutes les valeurs chrétiennes, et singulièrement du message évangélique. Ce bien commun, il l'associe dans sa première sous-section à la paix sociale, car le grand but, bien sûr, préserver le bien commun, c'est aussi de préserver la paix. Et la paix, c'est un bien commun qui est toujours en situation de fragilité, que ce soit à l'intérieur d'un pays, que ce soit à l'intérieur d'une micro-société, que ce soit à l'intérieur d'une famille, et que ce soit a fortiori à l'échelle mondiale.
Donc quand le Christ ressuscite, en tout cas c'est ce qu'elle rapporte donc les évangiles, quand il dit la paix soit avec vous, en fait il parlerait en fait quelque part aussi des sociétés ou de tous les groupes intermédiaires que peuvent être les entreprises, les familles. Il souhaite la paix dans toutes les circonstances, voilà. Et à tous les échelons, en fait.
Si je puis dire, c'est cette phrase du Christ qui est répétée dans l'évangile, on l'a entendu dans l'évangile d'hier notamment, la paix soit avec vous, lorsqu'il apparaît aux apôtres au soir de Pâques. Elle est à double direction, on pourrait dire. À direction de la communication de la paix donnée à tous les hommes qui souhaitent en bénéficier et à toutes les sociétés qui souhaitent en bénéficier, tous les pays qui souhaitent en bénéficier. Mais c'est aussi tout simplement la communication du Christ lui-même, puisque le Christ est la paix. Et donc lorsque le Christ dit « la paix soit avec vous », il dit « reconnaissez que je suis la paix ».
Alors, le pape François commence par parler, après avoir fait la précision que vous venez de citer, par parler des fausses paix. Il dit la chose suivante, ce serait de même une fausse paix que celle qui servirait d'excuse pour justifier une organisation sociale qui réduit au silence ou tranquillise les plus pauvres, de manière à ce que ceux qui jouissent des plus grands bénéfices puissent conserver leur style de vie sans heurts, alors que les autres survivent comme ils peuvent. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en commentaire de cette fausse paix? Que faut-il mettre derrière ces fausses paix dont le pape François parle?
Alors il y a double manière de considérer cette phrase. Premièrement, le pape désigne ce qu'on pourrait appeler une paix de non-agression, pourvu que tout aille bien, pourvu qu'il n'y ait pas, que rien ne fasse de vague, et que chacun puisse rester là où il est, tranquille. Mais l'autre direction, et c'est cela que le pape dénonce avec force, c'est qu'une fausse paix, c'est une paix qui n'en est pas une. C'est-à-dire, c'est une paix qui est au détriment de l'une des parties de la société, de l'une des parties de l'État. Et c'est le grand dilemme aujourd'hui dans le monde et dans les sociétés diverses. C'est-à-dire que si la paix est acquise au détriment des pauvres, que ce soit les pauvres au niveau mondial, que ce soit les pauvres dans un État quelconque, dans une société quelconque, alors ce n'est pas la paix. Alors ce n'est pas le Christ, puisque le Christ, précisément, dans la partie précédente de l'exhortation, dans la partie précédente, parlait justement des pauvres, de l'intégration des pauvres.
Y a-t-il jamais de la paix dans ces cas-là?
La paix est un but, est un objectif à poursuivre sans cesse, c'est ce que le pape dit. Elle est à poursuivre sans cesse, et c'est pour ça qu'il parle à un moment d'artisanat. Reprenant la formule du Christ dans l'Évangile, l'une des béatitudes, chapitre 5 de Matthieu, « Bienheureux les artisans de paix ». Et il fait remarquer que « artisan », ça veut dire qu'on construit la paix, et qu'on la construit sans cesse. Et nous savons très bien qu'elle n'est jamais totalement acquise. La paix sera acquise de façon définitive le grand jour où le Christ reviendra parmi nous.
Qu'est-ce que vous pourriez prendre comme exemple d'actualité qui illustre cette manière artisanale de chercher la paix? Et artisanale ne veut pas dire que ça soit amateur, loin s'en faut. En tout cas, voilà, une manière active de rechercher la paix. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui vous a...
Malheureusement, il y a beaucoup d'exemples où il faudrait que l'on déploie ces efforts. La difficulté, si je puis faire une référence discrète à la situation en France à l'heure présente, et ça a été souvent le cas, c'est que dans notre pays, très souvent, on a conçu la manière de résoudre les conflits que de manière agressive. C'est-à-dire qu'on s'oppose bloc à bloc, groupe à groupe, alors que le pape nous inviterait plutôt, et dans la deuxième partie, nous allons peut-être parler tout à l'heure, il invite à considérer cela, à dépasser, le conflit, mais ne pas le dépasser au détriment de l'un des antagonistes, mais de le dépasser en essayant ensemble d'atteindre un niveau supérieur, c'est-à-dire une solution. Alors évidemment, ça implique toujours la négociation, mais une négociation qui ne soit pas au détriment de l'une des parties. Et c'est toujours ça le gros problème, nous le voyons à l'heure présente, dans les dialogues qui ont lieu à l'intérieur de notre pays, avec les problèmes dans les universités, les problèmes avec les cheminots, les problèmes avec les fonctionnaires, les retraités, etc.
Si on continue, le pape François a cette phrase, « La dignité de la personne humaine et le bien commun sont au-dessus de la tranquillité de quelques-uns qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Quand ces valeurs sont touchées, une voie prophétique est nécessaire. » Et il entend, semble-t-il, par là, que la paix n'est pas l'absence justement de confrontation, voire parfois, la paix ne se réduit pas à une absence de guerre. Quelles pourraient être ces voies prophétiques? J'en ai pensé à une. Alors, peut-être à deux pour...
Oui, il y en a toute une série, voilà, en fait, depuis des décennies, il y en a beaucoup, oui.
Peut-être la voix de l'Église, on dirait que c'est facile pour nous de dire cela sur cette radio, mais à l'occasion de ces révisions des lois de bioéthique, je trouvais dans le journal La Croix une interview de Mgr Dornelas qui réagit à l'avis du Conseil économique, social et environnemental en faveur d'une légalisation de l'euthanasie, s'indignant que ce texte ne contient pas de réflexion éthique et que soient mis sur le même plan les soins palliatifs et l'euthanasie comme deux manières, semble-t-il, d'accompagner la fin de la vie qui serait équivalente, presque, en laissant entendre que l'euthanasie serait une forme de soin. Et j'en ai trouvé une autre qui peut-être plaira ou parlera tout autant à d'autres, c'est le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, voilà, publié en 2010 par cette grande figure, livre vendu, j'ai noté, à près d'un million d'exemplaires, de 4 millions d'exemplaires en 34 langues, et qui a fait se lever une partie de la jeunesse pour, comment dire, que nos pays d'Europe occidentale soient fidèles à l'héritage de l'après-guerre. Est-ce que ces deux voies vous semblent
C'est tout à fait possible de les considérer l'une et l'autre, et elles vont chacune, disons, dans une situation particulière, elles vont dans le sens que le pape souhaite. La voie prophétique de l'Église à l'heure présente dans le débat de bioéthique, elle a été réitérée fortement par les évêques lors de leur dernière assemblée de Lourdes. Le 22 mars, ils ont publié un texte posant cette question. Est-ce que les Français veulent une société où nous prendrons indirectement ou directement soin les uns des autres ? Est-ce qu'on prendra soin les uns des autres dans le traitement en particulier des personnes menacées d'euthanasie ? Ou bien est-ce qu'on préférera, disent les évêques, une société de la peur ? C'est-à-dire que chacun se débrouille, il a sa liberté individuelle, s'il souhaite mourir avant, on peut dire avant l'heure, enfin avant que le Seigneur ne le rappelle à lui, eh bien voilà, c'est la question qui se pose. C'est une question extrêmement difficile, l'euthanasie. Elle est très difficile, il y a eu 3 motions qui ont été proposées au Parlement depuis septembre dernier par différents députés, notamment en janvier dernier par, je crois, une dame qui s'appelle Caroline Fiat, qui est rapporteure d'une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Si les évêques ont réagi aussi fortement, c'est parce qu'il y a une pression énorme au niveau du Parlement français. Il y avait eu une tribune dans Le Monde juste avant que les évêques réagissent, de 156 députés demandant la législation de l'euthanasie. L'argument, c'est, chacun doit être libre de sa mort. Et sous-entendu aussi, la famille qui est autour peut elle aussi, si la personne n'est pas en capacité de prendre la décision, eh bien de prendre la décision à sa place. Or, la chose n'est pas si simple. Premièrement, il faut faire très attention à ne pas bondir tout de suite à des cris d'orfraie disant c'est une horreur, c'est un meurtre, l'euthanasie. C'est vrai, c'est un meurtre. Et le pape, les papes successifs, l'Église ne s'est pas privée de le dire. Mais il faut d'abord considérer, de mon point de vue, la souffrance des personnes. Souffrance soit de la personne elle-même, soit des personnes autour d'elle. La souffrance de la personne elle-même, c'est parfois des souffrances insupportables qu'une personne vit. Et à ce moment-là, dire « Seigneur, que ta volonté soit faite », c'est quasiment se retrouver dans la situation du Christ sur la croix. Donc il faut quand même considérer cela. Et en même temps, il faut affirmer fortement que nous ne sommes pas propriétaires de la vie, que la vie est un don. Et c'est ce que l'Église a toujours dit et dit encore, la vie c'est un don de Dieu, on ne peut pas disposer de sa vie comme ça. Mais étant en relation assez fréquente avec des personnes qui ont des affections très douloureuses et durables, comme par exemple la sclérose amyotrophique latérale, qu'on appelle vulgairement la maladie Charcot, quelqu'un qui vit cela vit quelque chose de très très dur, et bien entendu, comme le disait, je crois, le cardinal Veuillot sur la fin de ses jours, qui est mort d'un cancer, cardinal archevêque de Paris dans les années 60, il recommandait à ses prêtres de ne jamais parler de la souffrance s'ils n'avaient pas éprouvé la souffrance. Donc à la fois, il y a cette affirmation que la vie est un don, et en même temps, et c'est là que la voie prophétique est difficile, parce qu'elle doit tenir les deux. Et en même temps avoir cette compassion immense pour les personnes qui sont dans cette situation de souffrance.
Voilà, on va faire une première pause musicale un peu particulière pour rappel, puisqu'il s'agit de lecture d'extrait du texte que l'on commente en ce jour, et puisqu'on me l'a demandé, les extraits lus seront les paragraphes 238, 239, 40 et 41. On vous retrouve tout de suite après Jean-Louis Brouteau.
L'évangélisation implique aussi un chemin de dialogue. Pour l'Église, en particulier, il y a actuellement 3 champs de dialogue où elle doit être présente pour accomplir un service en faveur du plein développement de l'être humain et procurer le bien commun, le dialogue avec les États, avec la société qui inclut le dialogue avec les cultures et avec les sciences, et avec les autres croyants qui ne font pas partie de l'Église catholique. Dans tous les cas, l'Église parle à partir de la lumière qui lui offre la foi. Elle apporte son expérience de 2000 ans et garde toujours en mémoire les vies et les souffrances des êtres humains. Cela va au-delà de la raison humaine, mais cela comporte aussi une signification qui peut enrichir ceux qui ne croient pas et invite la raison à élargir ses perspectives. L'Église proclame l'Évangile de la paix et est ouverte à la collaboration avec toutes les autorités nationales et internationales pour prendre soin de ce bien universel si grand. En annonçant Jésus-Christ, qui est la paix en personne, la nouvelle évangélisation engage tout baptisé à être instrument de pacification et témoin crédible d'une vie réconciliée. C'est le moment de savoir comment, dans une culture qui privilégie le dialogue comme forme de rencontre, projeter la recherche de consensus et d'accord, mais sans la séparer de la préoccupation d'une société juste, capable de mémoire et sans exclusion. L'auteur principal, le sujet historique de ce processus, c'est le peuple et sa culture, et non une classe, une fraction, un groupe, une élite. Nous n'avons pas besoin d'un projet de quelques-uns destiné à quelques-uns, ou d'une minorité éclairée, ou qui témoigne et s'approprie un sentiment collectif. Il s'agit d'un accord pour vivre ensemble, d'un pacte social et culturel. Il revient à l'État de prendre soin et de promouvoir le bien commun de la société, sur la base des principes de subsidiarité et de solidarité. Et dans un grand effort de dialogue politique et de création de consensus, il joue un rôle fondamental qui ne peut être délégué dans la recherche du développement intégral de tous. Ce rôle, dans les circonstances actuelles, exige une profonde humilité sociale. Dans le dialogue avec l'État et avec la société, l'Église n'a pas de solution pour toutes les questions particulières, mais, ensemble, avec les diverses forces sociales, elle accompagne les propositions qui peuvent répondre le mieux à la dignité de la personne humaine et au bien commun. Ce faisant, elle propose toujours avec clarté les valeurs fondamentales de l'existence humaine pour transmettre les convictions qui ensuite peuvent se traduire en action politique.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc lecture d'Evangelii Gaudium. Pour rappel, donc émission le dernier mercredi de chaque mois, ce matin, avec Jean-Louis Breteau, diacre pour le diocèse de Toulouse, et émission dans laquelle, cette fois, nous parlons à l'intérieur du chapitre 4, la dimension sociale de l'évangélisation, du bien commun et de la paix sociale, et du dialogue social comme contribution à la paix. En gros, on arrive à un passage de l'exhortation apostolique où le pape François nous explique que la paix adressée par le Christ au monde devrait prendre toute sa réalité dans tous les niveaux de la société, et une invitation au dialogue et à la recherche d'une paix qui, sans être un consensus mou, travaille à être fidèle, on va dire, à l'esprit évangélique et à la place faite aux plus pauvres, pour résumer très grossièrement. Le pape François, dans ce passage, parle de 4 grands principes. Alors, ce sont des thèmes qu'on a déjà pu entendre dans sa bouche. Je vais les citer et puis je vais vous laisser les commenter. Le temps est supérieur à l'espace, l'unité prévaut sur le conflit, la réalité est plus importante que l'idée et le tout est supérieur à la partie. Peut-être une question d'introduction, ça peut paraître des choses bien conceptuelles et en même temps, peut-être que chacun, dans ses réalités de vie, peut se sentir rejoint par ces 4 grands principes. Qu'est-ce que vous diriez en mot d'introduction, y compris même la vie de famille, j'ai envie de dire c'est...
Voilà. Alors, en mot d'introduction, d'abord dire que si le pape parle de ces 4 grands principes, c'est parce qu'il reprend dans la doctrine sociale de l'Église, dans un texte qui s'appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, où il y a ces 4 principes. Donc, il reprend ces 4 principes. Naturellement, bien sûr, il pense, c'est un réaliste, le pape François, même si c'est un spirituel et réaliste à la fois, et donc il pense à des situations bien concrètes, Par exemple, précisément dans une famille, dans une famille, se dire que le temps est supérieur à l'espace, alors c'est peut-être la première formule qui paraît un petit peu particulièrement étrange. En fait, il explique bien, le temps, c'est l'espérance qu'une croissance est possible, qu'un développement est possible. Alors que lorsqu'on veut tout résoudre immédiatement, on peut se tromper totalement, arriver à un clash. En gros, si je résume, c'est à peu près ça que ça veut dire. Le deuxième principe, l'unité prévaut sur le conflit, ça paraît une évidence, carrément une tautologie. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, que, il faut essayer de surmonter les oppositions pour arriver à une solution qui soit supérieure. Et cette solution supérieure, c'est précisément toujours l'harmonie, la paix entre les personnes ou la paix entre les classes sociales, etc. Le troisième principe, la réalité est plus importante que l'idée, c'est là, j'ai tout dit tout à l'heure que le pape était réaliste, il est profondément réaliste. C'est-à-dire qu'il se méfie de toute idéologie. C'est-à-dire de toute construction qui va faire que on va dire que telle ou telle manière de faire, c'est la seule vraie, parce que ça nous convient dans notre esprit, dans notre manière de faire, etc., au lieu de se confronter à ce qui est la réalité. Et précisément, c'est le danger, c'est lié au premier principe, temps-espace, parce que si on laisse pas le temps au temps, comme disait quelqu'un il y a un certain temps, si on ne laisse pas le temps au temps, alors on risque d'en rester à la situation du conflit et de perdre tout sens de la réalité concrète. Et puis le quatrième principe, c'est le tout supérieur à la partie. C'est un principe philosophique ancien, très connu. Tout supérieur à la partie, c'est-à-dire que le tout n'est pas l'amalgame des parties. C'est que, par exemple, lorsqu'on passe à un certain niveau social, il ne suffit pas de dire « il y a un tel qui est là ». Il y a un tel qui, ensemble, font un corps. Et admettre que ce corps a sa propre vie, ses propres exigences, c'est très important dans les communautés chrétiennes.
Alors, si on les reprend chacun, le temps est supérieur à l'espace. Je cite certains passages, paragraphe 223. « Ce principe permet de travailler à long terme sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses où les changements des plans imposent le dynamisme de la réalité. Il est une invitation à assumer la tension entre plénitude et limite en accordant la priorité au temps. » Et je cite ce passage un peu plus loin. « Parfois, je me demande, dit le pape, qui sont ceux qui, dans le monde actuel, se préoccupe vraiment de générer des processus qui construisent un peuple plus que d'obtenir des résultats immédiats qui produisent une rente politique facile, rapide et éphémère. » C'est pas très étonnant de la part du pape François qui est coutumier des coups de griffe, on va
oui,
dire.
Oui.
Qu'est-ce que vous pourriez prendre peut-être comme illustration ou qu'est-ce que vous avez lu plus profondément dans ce grand principe ?
Je voudrais faire une première remarque, c'est que le pape François, entre guillemets, a la chance d'être élu à vie, s'il veut rester jusqu'à la fin de sa vie. Tandis que les politiques dont il parle sont des gens qui sont élus pour un certain temps, sauf ceux qui réussissent à se faire élire à vie, enfin nommer à vie comme certains dictateurs que l'on connaît. Alors ça, c'est un problème. Ils sont pris dans l'urgence de l'immédiateté parce qu'ils veulent être réélus ou obtenir un résultat électoral prochain. Donc ça c'est un très gros problème. Et donc, on ne peut pas résoudre certaines choses si on agit de cette façon. On va saupoudrer un petit peu pour faire plaisir à telle ou telle section de la population, on va saupoudrer et puis on ne résoudra pas vraiment le problème de fond. Les réformes profondes, alors je sais que récemment il y a eu quelques interventions en France du président de la République dans ce sens, les réformes profondes demandent du temps. La question c'est d'allier cette exigence de temps pour réaliser ces réformes avec la justice. C'est-à-dire, il ne faut pas que ces réformes, pour autant, aillent dans le sens contraire d'une justice sociale que tout le monde souhaite, et notamment le pape et puis tous les politiques qui nous parlent. Alors, d'autres exemples pratiques, je pense à quelque chose de très différent, mais qui est important de mon point de vue. C'est l'idée que, par exemple, la doctrine de l'Église est une doctrine à la fois fidèle à la tradition, fidèle à l'Écriture, et en même temps toujours en développement, ce que refusent certains. C'était l'une des grandes idées d'un grand penseur et grand homme d'église et théologien et prédicateur à la fois qui était au 19e siècle, John Henry Newman en Angleterre, qui a écrit au milieu du siècle un essai sur le développement de la doctrine chrétienne qui a été au début tout à fait refusé, même par les anglicans pour lesquels il écrivait et ensuite pour les catholiques, mais qui, en fait, aujourd'hui, est quelque chose qui porte son fruit, hein, dans le temps. Mais il faut accepter que ça se fasse dans le temps. Et vouloir avoir des résultats, par exemple, dans l'Église, vouloir avoir des résultats immédiats, exemple, le genre de questions stupides qu'on peut poser à un missionnaire chrétien ou une équipe chrétienne, c'est « Combien de conversions ?» C'est complètement stupide. C'est pas comme ça que l'évangélisation marche, précisément. Elle marche dans le temps.
Deuxième point, l'unité prévaut sur le conflit. Vous l'avez présenté brièvement, oui. Je cite un autre passage, et puis peut-être que vous pourrez l'éclairer. Face à un conflit, certains regardent simplement, donc paragraphe 227, face à un conflit, certains regardent simplement celui-ci et passent devant comme si de rien n'était. Ils s'en lavent les mains pour pouvoir continuer leur vie. D'autres entrent dans le conflit de telle manière qu'ils en restent prisonniers, perdent l'horizon, projettent sur les institutions leur propre confusion et insatisfaction, de sorte que l'unité devient impossible. Mais il y a une troisième voie, dit le pape, la mieux adaptée, de se situer face à un conflit. C'est d'accepter et de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d'un nouveau processus. Bienheureux les artisans de paix. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour approfondir ce point-là et puis peut-être pour l'illustrer rapidement, parce que je vois qu'il y a encore deux ou trois points à aborder.
On pourrait dire qu'il y a deux tendances qui se succèdent parfois en nous. Lorsque un conflit semble vraiment insurmontable, on se dit, bon, bah écoute, qui se débrouille ? Qui se débrouille ? Moi, j'ai fait mon travail, je m'en vais, je vais essayer de continuer à vivre tranquillement, je vais aller, comme disait Candide, n'est-ce pas, je vais aller cultiver mon jardin. Ça, c'est une position. Il y a une deuxième position qui est de dire les autres en face sont des gens impossibles, on n'arrivera jamais à rien avec eux, etc. Mais quand même, je continue le combat, je veux les assommer. Alors moi j'ai vécu ça à certaines périodes de ma carrière universitaire, j'ai vécu au sein de mon université où il y avait des situations de tension très fortes. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs.
C'était l'université Jean Jaurès.
C'est ça, voilà. Et alors à une époque, je me suis retrouvé, je me souviens, lors des, par exemple, des lois des réformes de 1995, lancées par Jacques Chirac et Alain Juppé, je me suis retrouvé dans la situation qui est la situation actuelle de l'université, où vous avez les barricades, tout est bloqué, on ne peut pas passer, etc. Et il se trouvait qu'à l'époque, j'étais l'équivalent de doyen. Et alors là, il y avait deux solutions. Ou je me lavais les mains de toutes ces affaires en me disant, bon, bah, les syndicats, tout ça, ils arriveront à résoudre le problème avec les étudiants, s'ils veulent. Ou bien j'essayais ou bien je rentrais dans l'un des camps, hein, un camp contre, un camp pour, etc. J'ai essayé de maintenir quelque chose de différent, c'est-à-dire à la fois de reconnaître certains points critiquables de la réforme, et en même temps de dire, est-ce qu'il n'est pas possible quand même, tout en luttant, entre guillemets, raisonnablement contre des aspects que l'on ne juge pas bons, est-ce qu'il n'est pas possible de construire ensemble une manière de vivre ? Et je l'ai fait dans ma partie, qui était chez les anglicistes, en convoquant tous mes collègues un soir, où c'était difficile de se rassembler, et en leur demandant, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on essaye ? Et à partir de là, ils ont dit oui. À partir de là, on a essayé de reconstruire quelque chose avec les étudiants, les personnels administratifs, doucement, patiemment, sans résultat apparemment immédiat. Mais on a réussi quand même après à rétablir une certaine harmonie, ou du moins une véritable paix quand même entre les acteurs.
Troisième point, la réalité est plus importante que l'idée. Vous avez précisé le contenu, je donne aussi un autre passage pour lecture et commentaire. Il y a des hommes politiques, y compris des dirigeants religieux, dit le pape, qui se demandent pourquoi le peuple ne les comprend pas ni ne les suit, alors que leurs propositions sont si logiques et si claires. C'est probablement parce qu'ils se sont installés dans le règne de la pure idée et ont réduit la politique ou la foi à la rhétorique. D'autres ont oublié la simplicité et ont apporté du dehors une rationalité étrangère aux personnes. Même question, qu'est-ce que vous diriez pour approfondissement de ce point?
Alors, juste, je ferai une référence à un autre passage du même...
Là, c'était le paragraphe 232, enfin une
oui,
partie.
Oui, moi, là, j'étais dans le paragraphe avant, où il énumère différentes manières d'occulter la réalité. Comment on fait pour occulter la réalité? Alors, il dit, il y a les purismes angéliques. Les gens qui disent, non, soyez, nous sommes des purs, donc on ne va pas se mêler de choses qui pourraient nous tâcher, en quelque sorte, nous maculer. Ensuite, les totalitarismes du relativisme. C'est assez bien vu, totalitarisme du relativisme. C'est-à-dire les gens qui vous disent, tout se vaut. Mais ce que moi je pense, ça vaut plus que ce que vous pensez. Voilà, c'est assez malin son argumentation, totalité du relativisme. Les nominalismes déclaratifs. Alors le nominalisme, on sait ce que c'est une philosophie, n'est-ce pas, qui dit que dans le réel, il n'y a que les noms. Quoi. Les noms, les mots ne correspondent pas au réel, il n'y a que les mots qui existent finalement. Donc ben, on fait des phrases, et avec les phrases, on emporte le pouvoir. Hein. C'est d'ailleurs le nominalisme dans l'histoire de la philosophie, mais je m'arrête là. A été très lié au développement de la théorie du pouvoir absolu. Ça, c'est pas un hasard. Et puis après, des projets plus formels que réels, c'est-à-dire c'est très beau, mais c'est pas réalisable. Les fondamentalismes anhistoriques, alors les fondamentalistes, on sait ce que c'est, on en a malheureusement souffert de plusieurs récemment. Les éthiques sans bonté, c'est-à-dire il faut faire ça, mais aucune miséricorde, aucune compassion pour les gens. Les intellectualismes sans sagesse, c'est-à-dire les gens qui sont de pur cerveau, mais qui finalement finissent par perdre tout à fait le bon sens, tout simplement. Alors, on en a des exemples hein, de tout cela. Dans les totalitarismes, il suffit de se rappeler les totalitarismes du siècle dernier, hein, qui décidaient, ils décidaient eux ce qui était bien, ce qui était bon pour tout le monde, voilà, en disant, de toute façon, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, à partir du moment où il n'y a pas de Dieu, tout est permis, et notamment ce que nous voulons. C'est ce qu'avait très très bien vu à la fin du siècle dernier certains penseurs. Nietzsche le dit carrément, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et Dostoïevski l'avait répercuté, lui, dans ses romans, lui qui était très croyant. Voilà. Alors aujourd'hui, on est toujours devant le même problème. Ne pas se laisser avoir. Parler, alors le pape dit aussi dans le paragraphe 232, par les manipulateurs de la vérité. C'est facile d'avoir, à l'aide de théories dont on pense qu'elles sont tout à fait justifiées, ou qui sont très commodes, plus exactement, parce que souvent c'est plutôt parce qu'elles sont commodes. Elles sont simples, donc elles sont commodes, eh bien on manipule les gens. Hein. Et il prend une citation de Platon assez amusante, là, comme on remplace la gymnastique par la cosmétique. Hein, voilà.
Et dernier point, le tout est supérieur à la partie. Alors là, je ne vais pas forcément citer un passage, mais une image. Image que j'avais déjà entendue dans la bouche du pape François. Il dit que le modèle pour comprendre cela n'est pas la sphère, mais le polyèdre.
Oui.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est un polyèdre et pourquoi le pape aime bien, j'allais dire, est fan de cette image, je ne me permettrai pas, mais pourquoi le pape François aime bien cette image? Oui. C'est le paragraphe 236.
Oui. Alors, un polyèdre, je prends la définition géométrique, n'est-ce pas? C'est un solide limité de toutes parts par des polygones plans. C'est-à-dire, au lieu d'une sphère, vous avez un ensemble de polygones qui sont articulés les uns avec les autres, avec des arêtes, etc. Et au lieu d'avoir, disons, comme le dit le pape, des points qui sont équidistants du centre, vous avez des distances variées, voilà, des distances variées, mais qui pour autant sont articulées ensemble. Et donc, l'image du polyèdre lui plaît beaucoup, parce que ça permet, d'intégrer des choses qui, a priori, pour certains, ne sembleraient pas intégrables, si on fait attention à la réalité. Alors, ceci étant dit, l'attention entre le tout et la partie, c'est aussi, il insiste beaucoup là-dessus, c'est le global et le local. Comment articuler le global et le local? Le global, on a suffisamment entendu parler de globalisation, qui est un terme anglais d'ailleurs, comme j'étais prof d'anglais, c'est un terme anglais pour mondialisation. Donc, mondialisation et localisation. Alors, je m'en tiens à là où j'habite, dans mon petit coin, je vis ma vie, comme il dit, un ermite renfermé, incapable de se laisser interpeller par ce qui est différent. Ou bien alors, je suis tellement dépassé par la mondialisation et la vitesse à laquelle elle se produit que bah, je me dis, de toute façon, je regarde, mais moi, je ne peux rien faire, je suis là, etc. Eh bien, le pape dit, non, c'est ni l'un ni l'autre qu'il faut faire.
Alors, excusez-moi, il a juste une expression, parce qu'il y a des expressions parfois un peu amusantes. Le premier, donc, l'impression qu'il est pris dans une espèce d'universalisme sans limite.
C'est ça.
Donc, que les citoyens, donc l'un, que les citoyens vivent dans... Donc, les premiers, pardon, vivent dans un universalisme abstrait, globalisant, ressemble aux passagers du wagon de queue qui admirent les feux d'artifice du monde.
C'est ça.
Et les autres, pardon, vous l'avez dit, celui des autres, la bouche ouverte... pardon, les feux d'artifice du monde, celui des autres, la bouche ouverte avec des applaudissements programmés. Pour les autres, ils se transforment en un musée folklorique d'ermites renfermés, condamnés à répéter toujours les mêmes choses.
Voilà. C'est
parlant.
C'est parlant et c'est tout à fait le cas. Voilà.
On va faire une deuxième pause pour donc cette émission Lecture d'Evangelii Gaudium et c'est justement les paragraphes 234, 235 et 236.
Entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne. En même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les pieds sur terre. L'union des deux empêche de tomber dans l'un de ces deux extrêmes, l'un que les citoyens vivent dans un universalisme abstrait et globalisant, ressemblant aux passagers du wagon de queue qui admirent les feux d'artifice du monde, celui des autres, la bouche ouverte et avec des applaudissements programmés. L'autre, qu'il se transforme en un musée folklorique d'ermites renfermés, condamnés à répéter toujours les mêmes choses, incapables de se laisser interpeller par ce qui est différent, d'apprécier la beauté que Dieu répand hors de leurs frontières. Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Par conséquent, on ne doit pas être trop obsédé par des questions limitées et particulières. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s'évader, sans se déraciner. Il est nécessaire d'enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l'histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. On travaille sur ce qui est petit, avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. De la même manière, quand une personne qui garde sa particularité personnelle et ne cache pas son identité s'intègre cordialement dans une communauté, elle ne s'annihile pas, mais elle reçoit toujours de nouveaux stimulants pour son propre développement. Ce n'est ni la sphère globale qui annihile, ni la partialité isolée qui rend stérile. Le modèle n'est pas la sphère, qui n'est pas supérieure au parti, où chaque point est équidistant du centre, où il n'y a pas de différence entre un point et un autre. Le modèle est le polyèdre, qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur originalité. Tant l'action pastorale que l'action politique cherchent à recueillir dans ce polyèdre le meilleur de chacun. Y entrent les pauvres avec leur culture, leurs projets et leurs propres potentialités. Même les personnes qui peuvent être critiquées pour leurs erreurs ont quelque chose à apporter qui ne doit pas être perdu. C'est la conjonction des peuples qui, dans l'ordre universel, conservent leurs propres particularités. C'est la totalité des personnes dans une société qui cherche un bien commun, qui les incorpore tout en vérité.
Présence. Vivante Église. Emmanuel Pella.
Lecture d'Evangelii Gaudium, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin, émission du dernier mercredi de chaque mois pour rappel, lecture continue ou presque donc de cette exhortation apostolique du pape François, la première du nom et non pas la dernière sur la sainteté que l'on a commentée lundi de la semaine dernière. Et nous sommes avec Jean-Louis Breteau, pour rappel diacre dans le diocèse, pour le diocèse de Toulouse. Dans la dernière partie que nous abordons aujourd'hui, le pape décline en fait les manières de cultiver cette culture de la rencontre d'une harmonie multiforme, comme il dit lui-même, de cultiver donc ce dialogue bien nécessaire pour faire œuvre de paix. Je rappelle ce passage qu'on a cité déjà tout à l'heure, c'est le paragraphe 240. Ce dialogue nécessite pour trouver la paix, il faut de grands efforts de dialogue politique et la création de consensus. Et le pape François parle aussi d'une exigence, cela exige une profonde humilité sociale. Je le redis parce que j'avais trouvé ça très, très parlant. Il développe 4 types de dialogue, pour lui fondamental à développer. Le premier est le dialogue le dialogue entre la foi, la raison et les sciences. Le dialogue œcuménique, dans lequel on inclura le dialogue avec le judaïsme. Le dialogue interreligieux, le dialogue avec, d'autres formes de pensée, ou dans un contexte de liberté religieuse. Si on prend le premier, dialogue, foi, raison et science, j'avais envie de dire en introduction, pour certains c'est une évidence. Maintenant, quand on interroge le grand public, ou je ne sais pas si une classe d'adolescents c'est le grand public, mais continue à traîner dans l'esprit des gens que l'Église serait bien loin d'initier ou de cultiver ce type de dialogue. Qu'est-ce que vous diriez pour introduction de ce point-là ?
Ce que je peux dire, c'est que le pape signale bien, c'est d'ailleurs dans le paragraphe 243, je crois, qu'il y a beaucoup d'idées préconçues qui sont véhiculées par les médias, voire parfois même par les intellectuels. Ils ont des idées toutes prêtes sur la religion, et ils pensent qu'il n'y a rien à faire avec les chrétiens, puisque de toute façon ils affirment des choses qui des choses qui valaient pour les personnes qui ne connaissaient pas la science, mais aujourd'hui la science résout tous les problèmes, et ça a été un peu le drame qui s'est passé avec Stephen Hawking, par exemple, le grand savant astrophysicien qui est décédé récemment, qui un homme très courageux, admirable dans son courage, et un très très grand scientifique, mais qui lui pensait que de toute façon c'était pas la peine de parler de religion, la science a tout résolu, et tout il disait même que, par exemple, l'univers se générait lui-même. Parce que certains disent, par exemple, la théorie du Big Bang justifie d'une certaine façon l'approche créationniste, d'une certaine façon, hein, à un certain degré. Le monde a été créé puisqu'il y a un Big Bang. Lui disait non, c'est la matière qui finalement a généré son propre développement, voilà. Je dis au passage, je ne sais pas si je peux le mentionner, il y a un petit film qui a été distribué, d'ailleurs KTO faisait la pub pour ça il y a un certain temps, qui s'appelle « Dieu n'est pas mort ». Où précisément il y a dedans, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'évoquer cela, mais où il y a un étudiant qui a choisi un module de philosophie, c'est un étudiant américain, université américaine, et le prof de philo leur dit, écoutez, on ne va pas perdre de temps cette année, vous allez tous signer une phrase, Dieu est mort, et je signe, voilà. Et alors tout l'amphi signe, Dieu est mort, et il fait passer les copies en bout de table, sauf un gars qui, lui, dit, je ne peux pas signer. Ah bon, pourquoi je ne peux pas signer? Ben parce que moi je suis chrétien, donc je ne peux pas signer un truc comme ça. Ah bon? Ah ben alors écoutez, à ce moment-là, dans les 3 cours suivants, vous allez avoir 20 minutes chaque fois pour prouver votre thèse, que Dieu n'est pas mort. Voilà. Après,
Aller voir le film.
Il faut aller voir le film, mais c'est très intéressant, parce que justement, il se fonde sur Stephen Hawking, ces gens comme ça.
Voilà. Je pensais entre autres à la théorie de l'évolution, on en a pas mal parlé aussi, on en parle souvent. Oui. On peut avoir l'idée que l'Église serait contre la théorie de l'évolution, et quand on creuse, même si elle avait pu émettre des réserves au moment de la publication de l'origine des espèces par Darwin, sa position s'est, précisée au fur et à mesure du temps. Et j'avais cette phrase du pape Benoît XVI en 2017, je ne retrouve pas exactement la citation exacte, mais bref, l'Église n'invalide pas la théorie de l'évolution, loin s'en faut. Est-ce que vous voulez peut-être apporter une précision sur ce sujet ?
Oui, le pape François a déclaré le 27 octobre 2014, de manière similaire, « Dieu n'est pas un magicien avec une baguette magique et la foi n'est pas incompatible avec le Big Bang, ni la théorie de l'évolution », a affirmé le pape François mardi. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus faire de la théorie de l'évolution, ni même de la théorie du Big Bang, des sortes d'orthodoxie scientifique, car ce sont des hypothèses. Et donc, L'Église respecte ces hypothèses en disant que voir les choses de manière totalement créationniste, c'est pas possible. Au début, quand Darwin a publié L'Origine des espèces en 1859, bien sûr, les chrétiens se sont élevés contre sa théorie. Et il y a eu des condamnations successives par différents évêques ou papes. Mais peu à peu, l'Église s'est montrée beaucoup plus prudente à l'égard de cela et a peu à peu dit que, bon, là, il fallait se garder précisément de fondamentalisme dans l'interprétation de la Genèse et qu'il fallait faire attention aux genres littéraires, etc., etc., et que par conséquent, il n'y avait pas d'incompatibilité entre la théorie de nécessairement entre l'hypothèse de la théorie de l'évolution et les données bibliques. C'est très important de voir cela, parce que autrement on rentre dans une lutte frontale, n'est-ce pas, entre les créationnistes et en fait et les créationnistes et les évolutionnistes. En fait, en quelque sorte, la science parle à un certain niveau, la foi parle à un autre niveau. Ce qui est insupportable, c'est lorsque la science prétend devenir la foi. C'est-à-dire lorsque, comme le pape le dit, elle devient positiviste, scientiste, et qu'il n'y a plus que sa vérité. Elle dépasse, dit le pape, son champ d'application. Elle dépasse même son objectif primitif, qui est le champ scientifique. Dans le champ scientifique, évidemment, Dieu n'y est pas, dans le champ scientifique. Ça serait un peu idiot de dire, c'est ce que disaient certains, je crois, Gagarine disait, je suis monté dans le Spoutnik, là, et je n'ai pas rencontré Dieu. Bien sûr, il n'a pas rencontré Dieu dans le Spoutnik. Voilà.
Donc c'est une invitation au dialogue qui s'adresse aux deux parties, le dialogue œcuménique et les relations avec le judaïsme. Je citerai un passage, paragraphe 244. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes pèlerins et que nous pérégrinons ensemble. Pour cela, il faut confier son cœur aux compagnons de route sans méfiance. Sans méfiance, répète-t-il deux fois, et viser avant tout ce que nous cherchons, la paix dans le visage de l'unique Dieu. Et puis un peu plus loin, si nous nous concentrons sur les convictions qui nous unissent et rappelons le principe de la hiérarchie des vérités, nous pourrons marcher résolument vers des expressions communes de l'annonce du service et du témoignage. On peut se dire, quand on lit ça, que c'est le rôle d'un pape que de faire œuvre de paix, mais que sur le terrain, il en est tout autrement. Et en même temps, la manière dont l'Église aujourd'hui appréhende les relations œcuméniques ou les relations avec le judaïsme est parfois très loin de ce que même un certain nombre de fidèles imaginent.
Oui, tout à fait. Ce dont il faut se rappeler, c'est que la démarche œcuménique est relativement récente. Il y a eu des précurseurs au début du XXe siècle, mais les choses n'ont commencé vraiment véritablement à bouger, on peut dire, que juste après le Concile Vatican II, lorsque le pape Paul VI a pris l'initiative d'aller rencontrer le patriarche Athénagoras à Constantinople, qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et qu'ensuite, l'année suivante, ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus exactement des dates, mais enfin, il y a eu une révocation des condamnations. Il y avait des condamnations, et les condamnations étaient supprimées des deux côtés. Donc c'est relativement récent, et je sais que moi, je commence à avoir un certain âge maintenant, j'étais extrêmement ému lorsque j'ai vu Paul VI et Athénagoras s'embrasser l'un l'autre. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. De la même façon, c'est pour la première fois sous Jean XXIII que l'archevêque de Canterbury de l'époque a été reçu par le pape. Et c'était tellement peu apprécié par certains membres de la curie qu'on a essayé de le faire entrer par une porte latérale. On se méfiait énormément. Aujourd'hui...
On peut dire de la même chose des relations avec le judaïsme.
Tout à fait. Ah ben, les relations avec le judaïsme, c'est peut-être, si on peut dire, encore plus difficile. Sauf que, précisément, eh bien, c'est l'initiative de grands papes comme Saint Jean XXIII, Saint Jean Paul II... Et bientôt Saint Paul VI, et puis François et Benoît XVI, d'avoir des relations profondes d'amitié avec des personnes juives, et parfois même avec des rabbins. Hein. Le pape Jean XXIII, par exemple, a eu une relation très spéciale parce qu'il avait, permis, par son action, à la demande d'un couple juif, lorsqu'il était à Istanbul, il a permis qu'un train puisse être relâché par les nazis. Il a sauvé, Dieu a sauvé 200 ou 300 juifs qui étaient dans ce train.
À propos de cet esprit de dialogue donc avec les gens de confession chrétienne différente ou avec les juifs, j'ai noté cet autre passage. Il ne s'agit pas seulement, paragraphe 246, s'agit pas seulement de recevoir des informations sur les autres afin de mieux les connaître, mais de recueillir ce que l'esprit a semé en eux comme don aussi pour nous. À travers un échange de dons, l'esprit peut nous conduire toujours plus à la vérité et au bien.
Et alors il donne des exemples de cela. Il donne un exemple concernant les orthodoxes, je ne sais pas si on a le temps. Et il parle de la collégialité épiscopale, de l'expérience de la synodalité que nous montrent les orthodoxes. On pourrait rajouter d'autres choses que les orthodoxes nous montrent. Et on peut rajouter aussi d'autres choses que nous montrent les évangéliques ou les protestants en général, à savoir cette connaissance de la parole de Dieu et cette accroche de la parole de Dieu extraordinaire qu'ont nos frères protestants.
Dernier point, c'est donc le dialogue social dans un contexte de liberté religieuse. Bref, on a l'impression que c'est le dialogue, on va dire, avec les non-croyants. Je citerai juste un passage. « Comme croyants, nous nous sentons proches aussi de ceux qui ne se reconnaissent d'aucune tradition religieuse, cherchent sincèrement la vérité, la bonté, la beauté, qui pour nous ont leur expression plénière, et leur source en Dieu », paragraphe 257. Et le pape parle, et on pourrait peut-être finir là-dessus, du parvis des gentils.
Oui.
Alors le parvis des gentils, ça c'est quand même... pouvait expliquer, le terme est quand même...
Alors c'est une idée de son...
Un peu spécial, mais...
C'est une idée du prédécesseur du pape François, de Benoît XVI. Benoît XVI, à Noël 2009, a fait, comme le pape le fait tous les ans, un discours à la curie. Et il a parlé de cette possibilité d'initier à nouveau quelque chose qui ressemblerait au parvis des gentils. Il s'agissait, dans le temple de Jérusalem, du temps où il y avait le temple, d'une zone dans le temple, d'un parvis, où ceux qui recherchaient un dialogue avec les juifs ou qui voulaient se renseigner, les païens qui voulaient se renseigner sur la religion juive, pouvaient venir et pouvaient discuter avec des docteurs de la loi, etc., etc. Pourquoi, a dit Benoît XVI, ne pourrions-nous pas faire quelque chose de ce style, pouvoir parler avec des athées, des incroyants qui veulent discuter avec nous? Ça s'est réalisé notamment 2 ans plus tard, en 2011, les 23 et 24 mars à Paris, avec ça a duré 2 jours, c'était assez impressionnant. Il y a eu des rencontres, je crois, à l'Institut de France, il y a eu des rencontres à la Sorbonne, etc.
Bernardin,
et puis alors il y a eu une allocution, retransmise par le pape Benoît XVI aux gens qui étaient sur le parvis de Notre-Dame, le vendredi soir, ce qui est quand même assez magnifique. Alors maintenant, est-ce que... Après, ça peut continuer. Oui, ça continue. Parce que, par exemple, le pape François a reçu, je crois, récemment, le congrès des médecins du monde entier, venant discuter avec la commission pontificale, sur la question. Et bien, cet échange, évidemment, est très, très important, surtout en ce moment où il y a tous ces problèmes concernant la biotique, tous ces projets.
Je finirai justement en citant le pape Benoît XVI à l'occasion de cette allocution que vous venez de citer, donc à Paris. C'était donc en mars 2011. Il s'adressait donc, c'était à travers une vidéo aux personnes présentes sur le parvis de Notre-Dame de Paris, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
En m'adressant à vous, je mesure tout ce que vous avez à vous dire. Un croyant, vous voulez interpeller les croyants, notamment en exigeant d'eux le témoignage d'une vie qui soit en conformité avec ce qu'ils professent et en refusant toute déviation de la religion qui la rende inhumaine. Et il ajoutait, croyant, vous voulez dire à vos amis que ce trésor qui vous habite mérite un partage, une interpellation, une réflexion. La question de Dieu n'est pas un danger pour la société, elle ne met pas en péril la vie humaine. Merci beaucoup Jean-Louis Breteau d'être venu au micro de Vivante Église ce matin pour cette lecture d'Evangelii Gaudium. Vous n'aviez pas le passage le plus facile.
Je ne crois pas, non.
Voilà, et on verra si les auditeurs
Juste un tout petit mot, ce que vous venez de dire, le pape Benoît XVI est un exemple de la douceur et de la patience que le pape François recommandait le lundi 9 avril, je crois, dans sa dernière exhortation.
Sur la sainteté.
La sainteté.
Il n'est pas canonisé, mais vous le canonisez presque. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.